15h à Paris, 4h à Kiev et Moscou. C'est RFI que vous écoutez.
Mathis Limano.
Dans votre journal, l'arrêt des combats en Ukraine, cela n'était pas arrivé en 3 ans de guerre. Ce samedi, Vladimir Poutine a décrété une trêve le temps du week-end de Pâques. Le président russe se dit guidé par des considérations humanitaires, ou plutôt un coup de com' pour faire bonne figure. Analyse à suivre. Aux États-Unis, le bras de fer se poursuit entre la justice et l'administration Trump. La Cour suprême suspend les expulsions de migrants vénézuéliens jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement américain enjoint les juges à lever cette suspension. Et puis que fait Joseph Kabila à Goma? La présence de l'ancien président congolais dans une ville contrôlée par le M23 interroge. Ses proches ont annoncé qu'il se prononcerait dans quelques prochainement. Un cessez-le-feu en Ukraine le temps du week-end de Pâques. Décision unilatérale de Vladimir Poutine. Ce samedi, le président russe a ordonné à son chef d'état-major d'instaurer cette trêve tout en veillant à repousser d'éventuelles violations du côté ukrainien. Un cessez-le-feu symbolique qui permet à Vladimir Poutine de se donner le beau rôle à moindre frais. C'est l'analyse du général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Il faut souligner que pour Vladimir Poutine, il y a eu le précédent du dimanche dernier avec les rameaux où la frappe sur Soumy a fait de très nombreuses victimes, au moins 35 morts et plus d'une centaine de blessés. Et donc cette frappe, le dimanche des rameaux, a beaucoup interpellé, d'autant plus, comme vous l'avez souligné, que cette année, la Pâque catholique et la Pâque orthodoxe tombent au même moment. Et donc il y a une dimension très symbolique autour de cette fête religieuse qui est majeure pour les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Et puis il y a aussi le fait que, on le voit bien par ailleurs, que les discussions avec les États-Unis sont compliquées. Et donc en quelque sorte, Vladimir Poutine donne un gage de bonne volonté. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et pour Vladimir Poutine, c'est en quelque sorte se donner le beau rôle au moindre coût. Et donc ça permet en quelque sorte pour lui de se présenter comme quelqu'un de raisonnable.
Le général Jérôme Pellistrandi avec Daniel Valot. L'état-major ukrainien dit observer un retour au calme dans certaines zones du pays. Un peu plus tôt, Volodymyr Zelensky avait accusé la Russie de violer son propre cessez-le-feu. Les assauts russes continuent sur le front. Une attaque de drones également dans le sud, d'après Kiev. Le président ukrainien affirme que son pays observera le cessez-le-feu et propose même de l'étendre au-delà de dimanche soir. Dans la bande de Gaza, une trêve paraît bien lointaine. Dans un discours samedi soir, Benjamin Netanyahou s'est dit convaincu de pouvoir ramener les otages sans céder aux diktats du Hamas. La guerre est dans une phase décisive, a précisé le Premier ministre israélien. Le Forum des otages, principale association de familles d'otages, a réagi. Il presse le Premier ministre à conclure un accord, même si cela implique un arrêt des combats. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont tué au moins 54 personnes samedi, selon les secours. Radio France Internationale aux États-Unis. La Cour suprême ordonne à l'administration Trump de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens. Donald Trump s'était appuyé sur une loi du 18e siècle pour expulser sans procès des centaines de migrants. La communauté vénézuélienne, particulièrement visée par le président américain et qui a pourtant largement voté pour lui en novembre dernier. Écoutez Sofia Alvarado, elle est étudiante à l'Université du Texas.
Je suis originaire du Venezuela, mais j'ai grandi et j'ai passé presque toute ma vie au Texas. C'est dur parce que, à cause de la manière dont ils ont vu leur pays s'effondrer, beaucoup de Vénézuéliens aux États-Unis ont cette peur de tout ce qui leur semble être de gauche ou entre guillemets socialiste. Et ceux qui ont obtenu la nationalité américaine, la plupart d'entre eux ont voté Trump, y compris ma propre famille. Ça me brise le cœur parce qu'on commence à voir comment ce choix se retournent contre leur propre communauté. J'ai entendu le témoignage d'une jeune femme qui a voté pour Trump et maintenant ses parents sont sur le point d'être expulsés au Venezuela parce que l'administration a mis fin au statut de réfugié dont ils bénéficiaient. D'un côté, j'ai envie de dire mais à quoi tu t'attendais? Et en même temps, j'ai grandi ici, je suis consciente que c'est plus facile pour moi que peut-être pour eux de voir les choses sous l'angle américain.
Un propos recueilli par Nathanaël Vitran, envoyé spécial au Texas. Journée de manifestation aux États-Unis. Des milliers d'Américains sont descendus dans la rue à New York et dans d'autres grandes villes du pays. Il s'agit de la deuxième journée de mobilisation anti-Trump en l'espace de 2 semaines. Et puis les négociations avancent entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Les deux parties étaient réunies à Rome ce samedi pour échanger sur le programme nucléaire de l'Iran. Téhéran et Washington cherchent un accord qui assurera un Iran sans armes nucléaires et sans sanctions, rapportent les autorités d'Oman qui assurent la médiation. C'est d'ailleurs dans le sultanat que les discussions reprendront samedi prochain. Vous êtes bien sur RFI, il est 2h05 à Kinshasa. Le mystère reste entier autour du retour annoncé de Joseph Kabila dans l'est de la RDC. Silence tendu du côté du pouvoir, prudence chez l'opposition et vives interrogations du côté de la société civile qui se demande ce que l'ancien président vient chercher dans une ville occupée par un groupe armé soutenu par le Rwanda. Tous retiennent leur souffle, alors que les proches de Kabila ont annoncé qu'il sortirait prochainement de son mutisme. Pascal Mulegwa.
Moi, je n'ai pas vu. J'ai entendu, évidemment. On a lu les articles. On attend de voir. On attend d'écouter.
Samedi, devant la presse à Lubumbashi, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, avance à pas prudent, car les retours annoncés de Joseph Kabila à Goma sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 soulèvent de nombreuses interrogations.
Le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il disait que son prédécesseur était lié à l'AFC. Depuis plusieurs mois. Bon, maintenant, qui décide de revenir ? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23.
Prudence également au sein du PPRD, le parti de l'ancien président. Ferdinand Kambéré, l'un des adjoints du secrétaire permanent, balaye tout soupçon. Il assure que Kabila n'a aucun intérêt à pactiser avec une rébellion qu'il avait lui-même chassée en 2013.
On a hâte de connaître pourquoi cette guerre a repris, alors que l'ancien président de son temps avait trouvé une solution. Pourquoi Félix continue à se cacher derrière des boucs émissaires alors qu'il a toujours demandé de parler avec Kagame qui est considéré comme le patron du M23? La piste royale à suivre, c'est que tous les Congolais, toute tendance, on soit associé à un dialogue national inclusif.
Une chose est sûre, Kabila compte prendre la parole dans les prochains jours à partir de Goma et son conseil diplomatique promet déjà un discours qui fera date. Pascal Mulegwa, Kinshasa, RFI.
On reste en RDC où le bilan de l'incendie survenu en début de semaine dans une embarcation sur le fleuve Congo a été revu à la baisse par le maire de la ville de Mbandaka. Il est désormais de 33 morts et 175 rescapés. Un précédent bilan publié vendredi faisait état d'au moins 143 morts. L'actualité du continent, c'est aussi la Tunisie. Jusqu'à 66 ans de prison prononcés dans un procès hors norme. Une quarantaine de personnalités dont des membres de l'opposition étaient jugés pour complot contre le président Kais Saied. Des ONG dénoncent un simulacre de procès et des accusations qui ne reposent sur aucune preuve. Les accusés vont faire appel, d'après l'un des avocats de la défense. Et puis c'est le week-end de Pâques. Pâques qui rime avec chocolat. Chocolat qui rime avec augmentation de prix. Cette année encore, il est en hausse en France. 14% en moyenne dans la grande distribution d'après l'UFC Que Choisir. Et c'est le même constat dans les chocolateries de luxe. Lia Roisin-Pillot s'est rendue chez Edouard à Paris.
C'est pour vous. Merci, au revoir.
Et bonne Pâques.
Cette année, la boutique est aux couleurs de la jungle, avec des singes et des grenouilles en chocolat. Mais Edwin Yansané n'en vend pas autant qu'espéré. Il est fondateur d'Edouard et chocolatier.
Mon premier Pâques en 10 ans, où j'ai l'impression que c'est pas Pâques. C'est-à-dire que d'habitude, on a 1 à 2 heures d'attente devant notre boutique du Marais. Mais c'est vrai qu'on a un peu moins de gens que les autres années.
La raison principale, une nouvelle hausse des prix du chocolat. Elle s'explique par l'augmentation des tarifs des matières premières, le cacao, la pâte et le beurre. Edouard s'approvisionne notamment en Afrique de l'Ouest et les récoltes sont mauvaises, la faute aux conditions météo.
Fondamentalement, on a eu des augmentations qui allaient de 30% à 300% sur certaines denrées. Le cacao de qualité, ça a toujours coûté très cher.
Conséquence, certains clients évitent les excès. Sandrine va fêter Pâques avec ses petits-enfants. La retraitée fait son premier achat, une toute petite boîte de chocolat.
Oui, le prix de chocolat a augmenté en même temps comme tout le reste, j'ai envie de dire. Ça m'empêche pas d'en acheter, mais du coup en plus petite quantité.
Et tout comme Sandrine, la plupart des clients complètent leurs préparatifs avec du chocolat de grande surface.
Un reportage à Paris de Lia Roisin-Pillot. Enfin, un mot de foot. Marseille reprend la deuxième place de la Ligue 1 après son carton 5 buts à 1 face à la Lanterne Rouge Montpellier. RFI, les 3h10 à Paris.